Alors, j'avais prévu depuis longue date une prédication et finalement, l'intercession de la semaine passée m'a quand même retourné. On était là, on priait. D'ailleurs, les jeunes, je ne vous ai pas vu ce matin. Hein. Ah, on fait des week-ends, on fait des concerts, on ne veut pas dormir la nuit et puis, elle est où la prière? Alors, je les pique un peu parce que, vous savez, il faut se donner. Hein. C'est rigolo parce que les jeunes, ils veulent faire des soirées pour ne pas dormir. Et nous, les parents, avec jeunes enfants, tout ce qu'on attend, c'est dormir. Alors, ce qu'on peut faire, c'est faire un petit planning. Vous venez la nuit chez nous, comme ça, vous ne dormez pas. Et nous, on peut dormir. C'est pas mal, ça. Hein. Alors, ça m'a travaillé dimanche passé parce qu'on a vraiment eu deux paroles assez fortes. Donc, je vous les rappelle. La première, c'était vraiment la notion du don de Dieu. J'avais eu cette image du don de Dieu, vraiment ce que Dieu nous donne. Et j'avais vu cette notion d'être recouvert, d'être couvert et recouvert, recouvert, jusqu'à ce que, eh bien, finalement, cette grande richesse soit complètement étouffée. Et ça m'a travaillé cette semaine. J'ai dit, Seigneur, mais c'est vrai, j'ai donné ça à l'Église. Mais si tu as parlé comme ça, c'est que peut-être tu veux plus. Et puis ensuite, la deuxième parole, c'était la notion des vases. Nous sommes des vases transparents, on voit ce qu'il y a à travers. Et ça nous parlait de la transparence. Et je dis, Seigneur, c'est bien, je l'ai donné à l'Église, mais est-ce que ce n'est pas juste une parole qui est passée comme ça entre deux chants, entre une prédication, et finalement, ça... Parce que quand Dieu parle, finalement, il faut qu'il se produise quelque chose. Et toute la semaine, je réfléchissais, je disais, Seigneur, mais qu'est-ce que je peux leur apporter? En plus, c'est la Pentecôte. Donc chez nous, les charismatiques, qu'est-ce qu'on fait le jour de la Pentecôte? On prêche sur le Saint-Esprit. Oh là là, c'est important pour nous. Hein. Mais je dis, non, Seigneur, tu veux nous parler. Et la personne qui avait dirigé cette intercession avait utilisé tout un passage. Et finalement, on va parler de ce passage-là. Et ça nous parle vraiment des fondements, des bases de quel est notre enracinement dans la parole de Dieu. C'est le fondement de notre vie chrétienne et finalement de notre vie en tant que protestant. Et c'est pour ça que je veux qu'on étudie ça ensemble. Qu'on se laisse travailler par la parole de Dieu, qu'on lise ces mots et qu'on se dise, ok, j'en suis où? Et vous allez voir, on va stopper à quelques moments, on va aller chercher dans la parole d'autres passages qui vont nous confirmer certaines choses. Mais j'aimerais que ton cœur soit disposé pour recevoir la parole de Dieu. Pas la prédication d'Alexis, mais les versets qu'on va lire. Et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ce matin? Alors Seigneur, on veut prier ce matin tout simplement pour ne pas être, Seigneur, ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui ont leur cerveau de bon français, de bon cartésien, de bon européen, Seigneur, qui tourne comme un processeur et qui classe tout. Mais Seigneur, on veut être, Seigneur, ces enfants, on l'a entendu, ces enfants qui viennent au pied du Père et qui viennent écouter son conseil, qui viennent écouter sa parole et qui se laissent tout simplement toucher par cette parole. Jésus, je te prie pour nos cœurs, peu importe l'âge qu'on a, peu importe la maturité que nous avons dans la foi, nous voulons être disponibles. Amen. Alors, on va commencer par lire Éphésiens au chapitre 2, versets 1 à 3. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises. Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelle à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs, d'hommes livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature voués à la colère de Dieu, comme le reste des hommes. Alors ici, on a le tableau qui est peint. On voit l'état du cœur de l'homme. L'état du cœur de l'homme, selon Dieu, eh bien voilà, c'est que, eh bien, on est tous voués au péché, voués à la colère de Dieu, et on a tous une tendance à suivre nos désirs et à ces choses qui finalement nous attirent, à cet élan du cœur qui nous attire vers des choses qui ne sont pas conformes à ce que Dieu a prévu pour toi, tout simplement, depuis le commencement. Alors, pour imaginer ce paragraphe, j'aimerais que tu fermes les yeux 2 secondes. Alors, tu fermes les yeux avec moi. Et tu imagines que tu es dans une salle et alors c'est le noir complet. C'est les ténèbres, il n'y a rien du tout. Donc tant qu'il n'y a rien du tout, bah, tu ne bouges pas, tu ne sais pas où tu peux aller. Et d'un coup, tu vois, il y a une petite lumière qui s'allume et puis tu vas avoir l'automatisme, tu vas suivre cette lumière. Et d'un coup, à ta droite, une autre lumière s'allume, à ta gauche, une autre, une autre, une autre. Et ça n'arrête plus jusqu'à ce que tu sois comme si tu étais dans l'univers et toutes sortes de lumières t'attiraient. Chacune d'elles t'attire. Voilà, tu peux ouvrir les yeux. Eh bien, ça, c'est l'état de l'homme pécheur. Il y a toujours un truc, toujours une pensée, toujours une volonté, quelque part, d'être attiré vers quelque chose qui l'appelle. Wilfried, viens par là. Et donc, la tête est constamment, eh bien, en train de... ton processeur tourne toujours vis-à-vis de quelque chose. Ça, c'est l'image que j'avais pour nous ce matin. C'est qu'on est tout le temps en train de... Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je vais aller? Ah, j'ai envie de ceci, donc j'y vais. Mais attends, maintenant, j'ai envie de cela. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, on se retrouve comme des hommes et des femmes instables. Et on va goûter à ça, on va goûter à ceci, on va goûter à cela, on va se faire une philosophie, on va se faire une théorie. Et puis après, voilà, ça fait toute une façon de fonctionner. On va venir à l'église, et puis je vais un peu à l'église pour soulager ma conscience, mais lundi, je recommence, je suis attiré par autre chose. Ben ça, c'est l'homme voué à lui-même. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il va suivre son instinct, l'instinct primaire d'homme charnel. On va lire maintenant en Romains, chapitre 8, chapitre que vous connaissez très bien également. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, car la loi de l'esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ a libéré de la loi du péché et de la mort. Ensuite, Romains chapitre 8, verset 3. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine. En envoyant à cause du péché son propre fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire depuis le commencement. Mais ce que nous savons, c'est que le péché est enfermé dans la nature humaine. Tu ne peux rien faire avec ça. Tu ne peux pas gérer ce problème par toi-même. C'est enfermé dans ta chair. Et si tu fermes tes yeux, tu vas être attiré par tout ça. Tu as beau ériger des montagnes de valeurs, de choses que tu as envie de... Tu vois, c'est toutes ces murailles que tu vas... Pas ces murailles, mais ces grands axes de ta vie. Voilà, je veux être quelqu'un de bien et pour moi le bien c'est ceci, c'est cela, je tolère cela ou ceci. Tu vois, on a tous nos tolérances dans certains domaines. Mais la réalité, c'est que, bibliquement parlant, et on le constate dans nos vies, je vous le dis toujours, moi j'apprends pas mes enfants à faire des bêtises, je leur apprends à faire que le bien. Ils ont une tendance à tourner, à dévier vers un petit mensonge par-ci, une envie par-là, une autre envie par-là. Pas plus tard qu'hier, j'ai mon fils qui va à un tournoi de foot aujourd'hui. Et donc, je lui dis, écoute, Timothée, je te connais, tu es quelqu'un qui a besoin de dormir, il n'y a pas de problème, tu vas aller au tournoi de foot. Donc, si tu vas au tournoi de foot ce dimanche, il y aura deux dimanches où tu as foot, tu n'iras pas, parce que finalement, il faut choisir. Mais il a le droit, c'est son choix, il a le droit d'aller jouer au foot, n'est-ce pas? Mais j'ai dit, écoute, tu veux, il y avait le cousin là, à la maison, tu dois dormir parce que tu veux aller au foot, mais en même temps, tu veux dormir dans la même chambre que ton cousin. Donc, on fait comment? Tu as deux envies en même temps que tu ne sais pas gérer, ce qui va faire que si moi, en tant que père, je t'accorde les deux, tu vas être fatigué, tu vas te blesser, il y aura des problèmes. Donc, tu as choisi le foot, donc tu ne dors pas avec ton cousin. Il y a un choix à faire. Et là, ça râle, ça boude. Vous comprenez? C'est un enfant. Mais on est tous comme ça. Des fois, on vient devant Dieu et on dit, moi, je veux ça, je veux ça. Et Dieu dit, oh, faire un choix. Parce que c'est deux chemins différents, là. Ça marche? La nature humaine, on le constate. Dès lors qu'un enfant commence à parler, vous allez constater, jeunes parents, que le non est très facile sur la langue. Pourtant, aujourd'hui, on ne peut plus leur dire non, apparemment. Alors, moi, je dis non à mon fils, vous voyez? Alors, c'est intéressant de voir qu'il y a une réalité. Mais ce qu'on a vu dans le premier verset, c'est « Maintenant donc, dans chapitre 8, verset 1-2, « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. » J'ai apprécié le chant de Sandy, ce vieux chant qui est pour moi, vous voyez, les vieux chants comme ça, c'est des hymnes que tous les chrétiens connaissent parce qu'on les a tous chantés quand on était jeunes. Et il suffit d'entendre la première note et on est parti. « Unis à Christ, nous sommes libres. » J'ai dit, « Seigneur, c'est ma prédication. » Le thème de ma prédication, c'est « Unis à Christ, nous sommes libres. » C'est pas beau? On ne s'est pas appelé avec Sandy. Hein. « Unis à Christ, vous êtes libres. » Ça veut dire que dans ta chair, il y a quelque chose qui te colle à la peau, mais unis à Christ, tu es libre. Ok, on va faire marche arrière parce que là, je parle à des chrétiens qui connaissent ce message, qui ont l'habitude, qui t'ont entendu maintes et maintes fois. Mais je veux dire, tu vois ma femme, nous, c'était le coup de foudre. Les jeunes, un rassemblement de jeunes, on était là et puis j'ai passé la porte, elle m'a vu, elle a dit, c'est lui l'homme de ma vie. Je parle pour elle, je ne vais pas lui laisser la parole. Ah, parce que sinon, elle est partie pour une demi-heure. Vous savez, quand vous branchez les femmes sur les histoires d'amour ou les enfants, ça part pour toute la journée. Et donc, elle m'a vue. Et moi, je l'ai vue. Et waouh, il se passe quelque chose. Mais pour le moment, on était encore distants, tu comprends. Hein, on apprend à se connaître. On a appris à se connaître. On s'est engagé l'un envers l'autre. Vous voyez, ça, c'est l'ordre biblique des choses. On s'est engagé non seulement par la parole, mais par les actes. On s'est marié devant vous. Beaucoup ici ont été témoins de notre mariage. Et ensuite, eh ben on s'est unis charnellement. Là, je l'ai connu. Et ça a donné 4 beaux enfants. Mais ce que je veux te dire par là, c'est qu'être uni à Christ, ce n'est pas simplement venir écouter la parole de Dieu, venir à l'église, prier une fois de temps en temps. C'est tellement plus profond que ça. Être uni à Christ, c'est faire un avec lui. Waouh ! Et quand je lisais ça, je disais, Seigneur, faire un avec toi. Faire un avec toi. Et vous savez, ça, c'est le fondement de notre foi protestante. Parce qu'on croit que dans notre cœur, par la grâce, on a accès directement à Dieu. Qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Que ce n'est pas ce qu'on fait ce matin, ce n'est pas nos rituels, ce n'est pas notre liturgie qui nous amène à Dieu. Mais c'est notre foi en Christ. C'est de croire qu'un jour, il est venu et que ces choses dont j'étais incapable de me débarrasser, eh bien, lui, il est mort à la croix. Et si je crois en lui, il me rend capable d'être uni à lui. Et là, une nouvelle vie s'offre à moi. Alors, on va aller plus loin. On va lire maintenant la suite de Éphésiens, pardon, chapitre 2, à partir du verset 4. Mais Dieu est riche en pitié. Donc là, il nous avait peint le tableau de la nature de l'homme. Et plus loin, il continue. Mais Dieu est riche en pitié et il nous aime d'un grand amour. Tu vois, le cœur de Dieu pour l'homme, malgré tes fautes, malgré tes faiblesses, malgré tout ce que tu fais, il t'aime. C'est un père. C'est pourquoi, à nous qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. Dans d'autres versions, il est écrit « unis en Christ ». Avec le Christ, unis en Christ. On est sur le même mot. Il vous a donné la vie unie en Christ. Je m'arrête là 2 secondes parce qu'à nouveau, c'est le fondement de notre foi. La vie de Dieu en toi est conditionnée au fait que tu sois profondément uni à Christ. Profondément uni à Christ. On continue. Il nous a donné la vie avec le Christ. Oui, vous êtes sauvés. Grâce à la bonté de Dieu, avec le Christ Jésus, il nous a réveillés de la mort et avec lui encore, il nous a fait asseoir dans les cieux. Ainsi, en montrant sa bonté pour nous dans le Christ Jésus, Dieu a voulu prouver pour toujours la richesse extraordinaire de ses bienfaits. En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu et parce que vous croyez. Cela ne vient pas de vous, c'est Dieu qui vous donne le salut. Je vous rappelle ce que Dieu t'a donné, cette vision de la semaine passée, que Dieu t'a donné quelque chose d'exceptionnel. Il l'a donné à tout homme acceptant de croire en Christ. C'est un cadeau. Et pourtant, parfois, on prend notre veste et on jette au-dessus. Et on est tellement préoccupé par nos affaires, tellement préoccupé par nos problèmes, tellement préoccupé par nos objectifs de réussite, tellement préoccupé par notre maladie peut-être, tellement préoccupé par tellement de choses. Ta tête, elle tourne et tu fermes les yeux et tu es attiré par tellement de choses. Que tu en oublies que Dieu t'a donné la plus précieuse des choses, c'est le salut par grâce et un ticket direct pour être dans sa présence le jour où tu fermeras tes yeux et que ton corps pourra plus bouger, eh bien ton esprit ira auprès du Père. C'est le fondement de notre foi. Ça marche ? Le fondement de ta foi est là. Si c'est pas ça, c'est pas la foi des évangiles. Je sur quel verset? Verset 8. En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu et parce que vous croyez. Cela ne vient pas de vous, c'est Dieu qui vous donne le salut. Ce salut ne vient pas de vos actions. Vous avez entendu le témoignage de Noémie? Moi, je ne savais pas ce qu'elle allait témoigner. J'ai compris que c'est bien de faire, c'est bien de servir, mais Dieu cherche mon cœur avant tout. Et ensuite, je vais servir. La Bible nous dit aussi, montre-moi ta foi comment. Vous connaissez ce verset? Montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Parce que ça veut dire que la foi produit des œuvres en moi. Mais je ne peux pas produire des œuvres qui produiront la foi en moi. Ce n'est pas vrai. Si ton pasteur vient et te dit qu'il faut prier 3 heures par jour pour être sauvé, ce n'est pas vrai. Je vais dire c'est bien de prier parce que tu vas rencontrer Dieu. Mais je ne peux pas te dire que prier te sauve. Ce que je peux dire, c'est ouvre ton cœur sincèrement à Dieu. Et là, il va toucher ton cœur et là, tu seras sauvé. Parce que c'est à ce moment-là que tu seras uni avec lui. Et ensuite, tu auras envie de prier, tu auras envie de te mettre à genoux, tu auras envie d'aller voir Jason en concert, tu auras envie d'aller aux soirées de louanges, tu auras envie de faire une étude biblique, tu auras envie d'approfondir. Mais n'approfondis pas pour susciter la foi en toi, ce n'est pas la peine, tu perds ton temps. Par contre, essaie de saisir une relation personnelle avec Dieu. La relation personnelle avec Dieu est aussi un des fondements de la foi protestante. Ça marche ? Oui, c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ, Jésus, pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. Sandy vous a parlé la semaine passée de ce que Dieu récompense. Excellente prédication qui nous donne. Je vous invite à aller sur le site internet. Vous savez que toutes nos prédications sont enregistrées pour ceux qui n'étaient pas là. Mais qui nous donne un cadre. Quand tu ne sais pas quelle est la volonté de Dieu, de dire ben, « Seigneur, en fait, je sais que si je m'engage là, eh bien, ta parole me dit que tu récompenses ces choses-là. » Donc, tu n'as pas besoin de réfléchir. Donc, c'est intéressant parce que ça t'évite de gamberger. D'accord ? C'est comme des autels où tu sais que si tu manifestes ta compassion, Dieu sera avec toi. D'accord ? Mais j'aimerais ajouter une chose à tout ça, c'est que c'est excellent, mais en même temps, on doit comprendre que si à la base, nous ne sommes pas unis avec Christ, tu peux faire ça et pourtant, passer à côté, être complètement à côté de la plaque, parce que ça reviendrait à des œuvres. Mais nous, on veut être profondément unis en Christ pour pouvoir produire ces œuvres qui vont venir de notre cœur. Est-ce que tu me suis, ancien chrétien, vieux chrétien, qui connaît ces paroles? Mais j'aimerais te parler parce qu'on est tous concernés. Si Dieu nous dit qu'il y a des dons qui ont été étouffés, eh bien c'est le don de son salut qui a donné pour nous, et peut-être on les a étouffés par tout ce qui gamberge dans nos têtes, par toutes nos activités, par nos problèmes, nos doutes, nos questionnements, nos craintes, peuvent étouffer la foi que Dieu nous a donnée. Et il est temps d'enlever épluchure par épluchure. Vous connaissez tous l'histoire de Nicodème. Nicodème, on ne va pas lire parce que ça va être assez long, mais dans Jean, au chapitre 3, versets 5 à 7, Nicodème, c'était un homme qui connaissait les rites, qui aimait Dieu, qui était sincère, et qui était un chef des religieux à l'époque, donc on les appelait les pharisiens, et donc c'était un des chefs religieux. Et il va voir Jésus à l'époque, il y a eu l'occasion d'entendre Jésus, il y a eu l'occasion de lui parler, il est allé le voir, il a dit, écoute, eh bien, de ce que je vois de tes actions, je reconnais que tu viens de Dieu. Il ne dit pas le Fils de Dieu parce qu'il n'y a pas la compréhension à ce moment-là pour comprendre ça. Mais il va dire, je sais que tu viens de Dieu. Il reconnaît quelque chose. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Qu'est-ce que je dois faire pour aller au royaume de Dieu? Il a déjà une connaissance sur ce qu'est le royaume de Dieu. Que ma vie ne s'arrête pas sur cette terre dans ce corps de chair, mais que ma vie traverse le temps avec Dieu, traverse l'espace, traverse tout ce que vous voulez. Mais je suis un homme éternel de par mon esprit, l'esprit qui m'habite. Et il comprend, il dit, mais comment je peux m'assurer que je serai là-haut? Et là, vous allez avoir la réponse de Jésus. Hier, j'ai eu un coup de téléphone de quelqu'un de l'église qui m'a dit, écoute Alexis, il y a ça dans ma vie. Ça ne va pas. Et qu'est-ce que je dois faire? Ben, j'ai dit, tu sais, moi, je ne suis pas Dieu. Et je ne peux pas te donner une liste de choses que tu dois faire et pas faire. Et c'est surtout ce que je ne veux pas faire. Parce que si tu vas suivre mes conseils, enfin, mes recommandations du faire et pas faire, ça ne marchera pas. Après, tu vas m'en vouloir. Et puis, en fait, à nouveau, je ne suis pas Dieu. Donc, je vais te conseiller. Je vais te dire ce que Dieu pense. Et donc, j'explique tout ce que je vous explique là. Ah Ah ouais, mais c'est pas très concret. Si c'est concret, abandonne ton cœur à Dieu. Mais comment je fais? Première question. Mais comment je fais? Abandonne ton cœur à Dieu. Mais comment je fais? Abandonne ton cœur à Dieu. Mais comment je fais? Je comprends, moi j'aimerais tellement te répondre. J'aimerais tellement te dire et te dire, voilà, écoute, on va mettre un protocole ici, devant l'estrade, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu es sûr de rencontrer Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Parce qu'on est tous différents. Moi, j'ai eu mon temps avec Dieu. J'ai eu un temps exceptionnel avec Dieu. Et j'ai eu une recherche tout un temps. Mais ma recherche n'est pas la tienne. Mais juste que ce que cette recherche produise en moi un temps précis dans ma vie où mon cœur était pleinement disposé et j'ai rencontré Dieu. Et vous savez, le cerveau est fait d'une telle manière que vous avez 24 heures dans une journée. Les jours sont tous exactement les mêmes. L'univers est fait de cette manière qu'il n'y a rien qui change. Mais pour vous, votre cerveau va imprimer des choses qui vont se passer pendant 1 minute. Mais ça se sera tellement fort en vous que vous avez l'impression que ça a duré 1 heure. Je me souviens toujours du regard où j'ai croisé Chanel ici. Une fraction de seconde, mais pour moi, c'est une journée. Ça a changé ma vie, tu comprends? Une fraction de seconde a changé ma vie. Je lui ai fait 4 enfants. Je fais plus de sport. Et puis, je passe mon temps à faire des conduites. Non, je vous fais une blague. J'aime beaucoup mes enfants. J'aime beaucoup être avec eux. C'est un plaisir. Mais ce que je veux dire, c'est que mon cerveau a imprimé ces millisecondes. Waouh! Ça, c'est important dans ta vie. Ça, c'est un moment clé, c'est un moment charnière. Ta rencontre avec Dieu, c'est la même chose. Mais la base, le moment où tu es uni à Christ, c'est un moment où tu t'en souviendras toute ta vie. Tu sens que là, ouais, ah là, je suis en phase avec le Créateur. Je sens que cette prière, vous vous souvenez, vous devez tous avoir ça, une prière que vous avez faite et vous sentez, ouais, elle est différente celle-là. Ah, elle a passé le plafond. Faut que je le note. Ta prière n'était pas plus longue que celle de la semaine dernière. Elle n'était pas mieux dite. C'est juste qu'il y avait vraiment ton cœur. Il y avait tout ton cœur, toute ta sincérité, toute ton humilité devant le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et là, il s'est dit, ah, là, lui, il m'intéresse. Je la prends, celle-là. Par contre, tout le reste avant, bon, c'est du pipeau. Il me récite ses trucs. C'est bon. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Être uni à Christ, c'est un temps suspendu dans l'espace où il n'y a que toi et lui. Que toi et lui. Amen. Il s'est passé un truc exceptionnel quand Jésus est mort. Vous connaissez tous Matthieu, on va le lire ensemble, Matthieu 27, versets 50 à 51. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Dans Actes 17, vous allez pouvoir lire que finalement, Dieu a toujours habité dans le temple, dans le lieu très saint, et c'était là qu'on allait à sa rencontre. On envoyait les principaux sacrificateurs une fois par an. Vous connaissez l'histoire, et ils allaient demander pardon à Dieu pour les péchés du peuple. Et Dieu pardonnait le peuple, et on recommençait un tour. Et là, au moment où Jésus meurt, ce voile se déchire. C'est le voile qui séparait. Vous connaissez ça aussi, qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire qu'à ce moment-là, Jésus a pardonné nos fautes. Et maintenant, par lui, eh bien, on a accès directement au lieu très saint. Tu as accès directement à Dieu. Et dans Actes 17, il est dit qu'à partir de là, Dieu n'habitera plus dans les temples faits de main d'homme. Il n'est plus là, Dieu. On tourne la page. J'étais là pour un temps, mais maintenant, ce n'est plus là que vous allez venir à ma rencontre. Ce n'est plus dans les temples faits de main d'homme. Ce n'est plus mettre votre dévotion entre quatre murs. Ce n'est plus là. Ce n'est plus là. Et vous l'avez lu dans. Vous l'avez lu, on l'a lu ensemble, il y a écrit quoi? Il y a écrit que Jésus nous a transportés où? Avec lui, non, quand tu es uni avec Christ, tu es transporté avec lui auprès du Père. C'est pas exceptionnel ça, parce que le voile du temple, eh bien, s'est déchiré, que Dieu est à sa place de Dieu, que Jésus est le seul intermédiaire, que maintenant, quand je confesse le nom de Jésus, eh bien, à tout instant, je peux être à côté du Père. Alexis, comment on fait? Comment on fait? Comment je fais demain pour être à côté du Père? Mais comment je fais dans la prière? Ouvre ton cœur profondément. Il y a un mois, j'étais dans mon lit, j'étais pas dans un temple. Je vous le dis, j'étais fatigué, frustré, agacé. J'ai dit, Seigneur, ça ne va pas mon état, je ne suis pas bien. Je reconnais ma faute, je reconnais ma faiblesse, je reconnais que mon état de cœur n'est pas bon. Vous voyez la première partie là ? Je le reconnais, mais maintenant, il faut que ça s'arrête. Et là, j'ai senti mon cœur transporté auprès du Père. Calme-toi, ça va aller, je m'occupe de toi. Et la paix qui rentre, ben ça c'est ma foi. Que Dieu est vivant et qu'il agit concrètement. Et à ce moment-là, je n'étais pas dans un temple. J'étais dans mon lit sous ma couette avec ma femme qui ronflait. Non, elle ne ronflait pas. Mais à ce moment-là, suspendu dans le temps, mon cœur était là avec Dieu. Et ce n'était pas juste une émotion. Il y a des gens qui vont nous qualifier d'émotionnels, nous, chez les évangéliques. Oui, il y a parfois un peu trop d'émotions, je vous le dis. Mais il y a surtout des hommes et des femmes qui veulent être totalement sincères devant leur Dieu. Et ça, je le reconnais pleinement. Et je sais que quand on est sincère, humble, peu importe ce qui nous arrive, qu'on dépose ça vraiment devant Dieu, qu'on met notre cœur, qu'on déverse notre cœur comme cette cruche-là, et on dit, Seigneur, vois tout de moi maintenant. Et tu sens cette paix. Tu n'as pas forcément de réponse, mais t'inquiète pas, je m'occupe de toi. On confirme ça avec Hébreux. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint. Grâce au sang du sacrifice de Jésus, il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire. C'est-à-dire à travers de son propre corps. Ses paroles sont puissantes, est-ce que tu les mesures ? Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alexis, comment on fait ? S'il te plaît, arrête de me poser cette question. Lis ce passage. Lis ce passage. Tu peux aller directement vers ton Dieu par le moyen de Jésus-Christ. Il a dit un chemin nouveau et j'insiste sur le fait qu'il est nouveau et qu'il est vivant, un chemin vivant. Il faut que je prie de cette manière, que je récite telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Il faut que je m'agenouille devant telle croix. C'est pas vivant ça. Moi je me tourne vers le Dieu vivant. T'es où en ce moment ? Je sens que t'es pas dans ma semaine là. Je sens que c'est compliqué dans mes pensées. Et là tu cries Jésus, t'es où ? Il faut que je te parle. Et là qu'est-ce qui va se passer ? Ah, mais regarde ton cœur, est-ce que tu peux me parler dans cet état-là ? Ah ok, je vais faire le tri, parce que qu'est-ce qui est écrit à la fin ? Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Jésus, je suis passé par les eaux du baptême. Je me suis engagé pour toi. Je veux revenir à ça. Je veux revenir à ce moment suspendu dans le temps où j'ai dit oui et où le pasteur m'a plongé dans l'eau, où j'ai engagé toute ma vie, toutes mes ressources, ma famille. Je veux revenir à ce moment-là. C'est un acte que Dieu nous a demandé de faire parce qu'il sait que c'est un moment où il faut savoir revenir. Pourquoi tu t'es engagé ? Pourquoi tu as fait ça ? Parce qu'il y a des temps où tu vas chavirer. Je me souviens, telle date, ce moment suspendu dans le temps. Moi, c'est Paul qui m'a baptisé avec Fred Albrecht, je m'en souviens. Parce que c'était un moment suspendu dans le temps pour moi. Et je me suis baptisé avec ma femme. Waouh ! Quand ça va mal dans ton couple, je me souviens de quoi ? De mon mariage. Qu'est-ce que j'ai dit à ma femme ? Qu'est-ce que je lui ai promis ? En quoi je me suis engagé ? Bon, je vais me remettre en question parce que là, je râle un peu trop. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ces moments suspendus dans le temps avec Dieu, unis à Christ. Quand est-ce que tu as été suspendu dans le temps dernièrement avec Dieu ? Parce que j'aimerais te dire que ce n'est pas qu'une fois. Un jeune homme m'a dit, qu'est-ce qui se passe quand vous priez pour les gens ? Les gens se convertissent. Ben, je dis oui, parce que dans l'église évangélique, charismatique, pentecôtiste, protestante et tous les noms que tu peux lui mettre, on donne l'occasion aux gens de se convertir. Parce que si on ne le fait pas, ils sont chrétiens pourquoi ? Parce qu'ils ont eu un papa, une maman, parce qu'ils ont entendu, parce que peut-être ils sont d'accord avec les valeurs. Ce n'est pas ça, être uni à Christ. Tu peux être d'accord avec les valeurs chrétiennes, être en accord avec elles-mêmes et pourtant ne pas être unie à Christ. Et je dis, oui, on donne l'occasion à chacun de pouvoir confier sa vie à Christ dans nos cultes, dans nos réunions. On prie pour eux et on bénit ce moment-là parce que c'est le temps suspendu par Dieu pour eux. Amen. Si tu n'as jamais fait ça, ce n'est pas un rite. Moi, j'ai déjà prié pour mon beau-frère. C'était chez moi, dans le canapé. J'ai dit, écoute, Edouard, maintenant, ça suffit. Est-ce que tu donnes ta vie à Jésus? Et ça a été son moment à lui, dans mon salon. Ce n'était pas dans le sanctuaire. Ça peut arriver ici, ça peut arriver chez quelqu'un. Peu importe, mais c'est un temps où tu t'unis à Christ. Alors pour nous, chrétiens de longue date, qui connaissons tout ça, qu'en est-il? La Bible te dit que tu dois être transformé de gloire en gloire. Je vais te révéler quelque chose. Tous les jours, tu dois te convertir à nouveau. Ah, c'est pas cool, ça. Purée, c'était déjà fort une fois, ça m'a décoiffé. Mais là, encore. Ouais, parce qu'on n'est pas parfait. Mais avec l'engagement, Seigneur, te servir, de vraiment donner toute ma vie pour toi, eh bien, je sais que de gloire en gloire, ça veut dire quoi? Il est écrit de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Par ton esprit vivant, tu m'amènes sur ce chemin vivant où qui habite sur ce chemin, c'est pas la religion, c'est pas les règles, c'est pas la loi, c'est encore l'autre personne, la Trinité, celui qui te lâche pas, c'est le Saint-Esprit, qui quand tu fermes les yeux et que tu es attiré par toutes ces lumières, tous ces bruits, il trace un chemin pour toi et tu dis ok, je te suis. Parfois c'est difficile. Ah, ce Saint-Esprit-là, je peux t'assurer que si tu veux y arriver, si tu veux vraiment être uni à Christ, ce n'est pas uni dans ta chair, uni par tes rituels, c'est uni en esprit. Il faut que l'Esprit de Dieu vive profondément à toi. Et comme on est pentecostiste, maintenant j'en arrive au Saint-Esprit. Parce qu'on est charismatique, j'en arrive au Saint-Esprit. Un jour, il y a quelqu'un dans l'église qui m'a dit « Alex, tu en arrives toujours à l'Esprit ?» Je dis oui, parce qu'à un moment donné, sans l'Esprit, on ne peut rien faire. Tu peux faire tous les efforts du monde. Tu peux te conditionner, tu peux avoir la volonté, mais sans le vent de l'esprit, sans le feu de l'esprit, il n'y a rien. Tu sais que la repentance, c'est le feu de l'esprit qui te brûle, qui consume tout ce qu'il y a de mauvais chez toi. Moi, je n'aime pas passer par ce feu-là. Hein. Il ne me fait pas toujours, souvent, on est là, le feu, c'est que la puissance. Non, le feu, ça consume tout ce qui est mauvais en toi. Tu es face à qui tu es vraiment. Et tu dis, Seigneur, pourtant tu me montres, pour moi c'est une montagne, je suis un colérique. C'est impossible pour moi, mais tu me montres que c'est pas bon, je reconnais que c'est pas bon. Mais il est où le chemin? Le Saint-Esprit dit, viens, je vais te montrer où il est le chemin. Tu vas y arriver avec moi. Je vous donne des exemples comme ça à la volée. Mais c'est ça la vie avec l'Esprit. C'est vivant. Est-ce que tu as le même Dieu que moi ou... Tu as le même Dieu que moi? Ah. J'aime tellement ce Dieu-là, tu vois. Alors moi, je vous ai noté un petit truc. Ce matin, j'écrivais, je dis, je vais leur dire tout ça, parce qu'ils ont besoin de le savoir. Et imagine que c'est toi qui parles. Et j'ai écrit ça. Je suis chrétien, car le seul à s'être donné réellement à moi et à qui je peux me donner entièrement est le Christ. Là, on va parler des étiquettes. Je suis baptiste, car je crois qu'en passant par les eaux du baptême, je m'identifie pleinement à Christ. Je m'associe à son œuvre dans ma vie et me reconnais comme uni et membre à part entière de son corps qu'est l'Église. Je célèbre cette appartenance et la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ à chaque fois que je partage la Sainte Cène avec mes frères et sœurs. Tu vois, ça, c'est la grande différence avec le catholicisme. C'est aucune critique ce que je dis. Je vous dis ce en quoi je crois. C'est ce que la parole me dit. Quand on me dit que dans l'hostie, il y a vraiment Dieu, que c'est seulement ce moment-là où je suis en communion avec Dieu, ce n'est pas vrai. Parce que moi, dans mon lit, je suis en communion avec Dieu. Dans ma baignoire, je suis en communion avec Dieu. Ce n'est pas seulement à ce moment-là. Par contre, ce que je reconnais, c'est qu'avec mes frères et sœurs, là, on est en communion. Là, on fait la fête. Là, on se souvient que Jésus est mort pour nous. Là, on dit, Seigneur Jésus, on est ton Église. Et ça me fait du bien. Mais je, par expérience, parce que je lis dans la parole de Dieu, je sais que Dieu, eh bien, il vient à ma rencontre et je peux aller à sa rencontre à n'importe quel moment, pas seulement à ce moment-là. Voilà pourquoi j'ai écrit ça. Je suis pentecôtiste, charismatique, car je crois que le Saint-Esprit fait de moi sa demeure. Il n'habite plus une demeure, un temple fait de main d'homme, mais il habite ce temple que je suis, le temple du Saint-Esprit. Ce n'était pas juste il y a quelques milliers d'années. Je crois en la manifestation de l'Esprit et à l'expression de ses dons spirituels. Je suis évangélique. On critique beaucoup les évangéliques. Car je crois en la puissance de la prédication de l'Évangile. Dieu a choisi la folie de la prédication, que tu sois content ou pas content. Il a choisi la folie de la prédication de l'Évangile pour toucher le cœur des hommes. Il n'a pas choisi tous tes programmes que tu mets en place pour peut-être convaincre quelqu'un. Il a choisi la folie de la prédication de l'Évangile de Jésus mort à la croix. Voilà pourquoi je suis évangélique. Et je crois qu'il faut prêcher l'Évangile à quiconque est prêt à l'entendre. On ne fait pas n'importe quoi, on ne fait pas n'importe comment. Il y a de l'ordre dans l'Église de Dieu. Mais je crois que Dieu veut que nous prêchions à nos voisins, que nous annoncions à nos frères, à nos sœurs, et que nous ne soyons pas des timides dans l'esprit. Amen. Alors voilà pourquoi nous sommes protestants, évangéliques, charismatiques, pentecôtistes, baptistes, tout ce que vous voulez. Parce qu'on croit à l'entièreté de l'Évangile et en sa manifestation concrète dans nos vies. Est-ce que ça te va? Unis à Christ, nous sommes libres. Alors je crois ce matin, je vous ai fait le résumé de notre confession, mais je crois qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de se convertir à nouveau. Pourquoi? Pas parce que j'ai tremblé cette nuit, mais parce que Dieu a parlé plusieurs fois durant les semaines. Alors j'aimerais te donner cette occasion de te convertir à nouveau. Te convertir, ça veut dire accepter, être uni à Christ pleinement. Que tu sois chrétien depuis 10 ans, 5 ans. Moi, tu sais, je suis le premier à sauter là et dire, Seigneur, à nouveau, je répands ma vie devant toi. Je suis le premier. Quand j'ai préparé ce message, je dis, Seigneur, c'est tellement puissant. Je ne peux pas passer à côté de ça. Je ne peux pas me priver du don que tu me donnes. À cause de mon travail, à cause de mes préoccupations. Être un jour avec Dieu, un jour sans Dieu. Un jour avec Dieu, un jour... Non. Je veux toute ma vie, Seigneur. Je veux me souvenir de mon baptême. Je veux me souvenir de mon baptême de l'Esprit. Je veux me souvenir, Seigneur, quand j'ai vécu des temps intenses avec toi. Je veux me souvenir de ces temps suspendus avec toi dans ta présence. Et Saint-Esprit, c'est ton œuvre. Alors fais ton œuvre dans ma vie encore ce matin.